Je pense qu'en fait, il y a quand même une question un peu internationale autour de l'exposé qui a été fait par Raphaël à la Suisse Conseil-Vest. C'est-à-dire que, effectivement, on observe dans de nombreux quartiers, dans de nombreuses villes où il y a un fort développement dit non réglementaire, cette tendance à faire de la politique anti-risque un substitut de politique urbaine. C'est en forte émergence depuis, il me semble, quelques années, enfin, un petit nombre d'années, mais ça pose des questions, effectivement, peut-être, sur la relation entre la mise en place de ces politiques anti-risques vis-à-vis des quartiers non réglementaires et la montée en force, effectivement, d'un discours global sur le développement du monde, etc. Je ne sais pas comment on peut relier les deux, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant qui pose des questions.
Non, je ne sais pas.
Je pense que c'est partagé par d'autres intervenants, je pense, aujourd'hui, cette question-là. Bon, je vous propose, peut-être sans transition, de passer au troisième exposé avant la pause.
Il y avait encore une question.
Pas vraiment une question. Pas vraiment une question, mais disons qu'une réflexion par rapport au manque d'intégralité de la vision sur la première attitude du logement, je crois, même sur le thème en Colombie. Le fait de voir qu'encore une fois, on se limite à travailler sur les murs, alors que le problème est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe. Et il y a toutes les problématiques sociales, problématiques économiques, problématiques culturelles qui n'est absolument pas abordée. On se limite simplement à déplacer les gens d'un endroit à un autre, en pensant qu'on va résoudre le problème de cette personne-là. En fait, non seulement on ne le résout pas, on en crée d'autres.
J'ai peur de...
Non, on a du temps,
Moi, je suis tout à fait d'accord. Et, bon, là, je parle du risque, mais la question du logement à Rio de Janeiro, il reprend quand même à partir de 2009 avec force et avec d'autres aspects aussi. Alors, par exemple, les interventions pour les Jeux Olympiques, on est en train de déplacer plusieurs personnes, parfois en utilisant aussi la notion du risque, parfois non, bon. Il y a quand même une reprise assez importante. Et pourtant, à Rio de Janeiro, on a fait la preuve complètement très claire de l'échec social, économique, politique d'une telle démarche. Et alors, ça suffit de voir que dans la plupart des grands ensembles qui ont été construits à 80 km, l'échec était assez clair. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Il faut analyser d'une façon extrêmement plus vaste cette question-là. Et en ce qui concerne la question d'Agnès, je suis aussi tout à fait d'accord. Comment on reprend la question du risque, je peux vous dire très clairement l'aspect politique de cette question-là, parce que la même structure que je vous ai parlé tout à l'heure, la Géo-Rio, aux années 80, aux années 90, elle était extrêmement respectée par les mouvements sociaux et surtout par les favelados, parce qu'il y avait quand même une démarche politique au sein de la mairie de réhabiliter ces espaces-là, des garanties d'assurer le droit à la ville. Et comment, avec un changement politique, cette même structure qui était extrêmement connue par un savoir-faire extrêmement pointu en ce qui concerne la réhabilitation et la prévention du risque, maintenant, elle reprend une autre face et un autre aspect politique au cœur de la ville.
Vous pouvez peut-être justement un peu développer cet réfléchissement, quelle est la nature de l'réfléchissement et les
arguments, par exemple. Oui, je n'ai pas eu le temps, par exemple, de vous citer, mais il a eu deux rapports juste après les pluies. Un premier rapport, les 12 avril, quelques jours après les pluies. Normalement, actuellement, la Géo-Rio les risques, elle va situer les risques dans 3 degrés. Alors, je crois quand même que c'est un peu trop schématique de définir le risque. Alors, un risque élevé, moyen et en bas, un risque très bas. Et dans plusieurs cas, ces rapports ils ont été faits par des photos des Google Maps. Là, alors, je crois que pour définir le risque, il faut quand même quelque chose un peu plus pointu. Et alors, ce que c'est très intéressant, c'est que de contre-rapports qui ont été construits, et dans la plupart des cas, ils ont utilisé le rapport ancien de ces mêmes organismes qu'aux années 80, les années 90, ils disaient justement la chose contraire en disant, voilà, c'est possible l'occupation de cette zone-là, il existe, à condition qu'on n'augmente pas trop, et avec des investissements de l'État. Alors, ce qu'on va voir depuis au moins une quinzaine d'années, une chute brutale des investissements de la mairie par cet organisme dans les travaux d'amélioration de ces quartiers-là. Il y a aussi la construction des rapports qui ne respectent pas, qui ne sont pas, techniquement parlant, ils sont extrêmement assez faibles aussi. C'est pour ça qu'il y a toute une construction autour des techniciens qui veulent aider d'une certaine façon ces mouvements sociaux pour essayer de construire des contre-rapports. Mais là, c'est extrêmement compliqué. Ben, je vous cite parce que de toute façon, ces questions, elle va tomber un moment ou l'autre au pouvoir judiciaire. Et là, c'est un autre aspect de mon projet. Je vais essayer de travailler de procédures judiciaires pour essayer de comprendre comment la question et la notion du risque, elle joue un rôle extrêmement important, même au prix des droits qui ont été acquis pour ces habitants-là. Et alors, plusieurs techniciens m'ont déjà dit que c'est assez complexe lorsqu'il y a un rapport de la mairie qui tombe, même si moi, en tant qu'ingénieur, j'ai fait un contre-rapport, c'est quand même assez complexe parce que les juges ne veulent pas avoir la responsabilité, par exemple, de laisser que les gens habitent sur place. Alors, c'est quand même un pouvoir extrêmement important, la manière, les pouvoirs de définir, de nommer les risques de ces zones-là, parce qu'ils coûtent, dans plusieurs cas, les relogements forcés de ces habitants.
Et il y a un peu un paradoxe en même temps, parce qu'on se situe dans la période, disons, de Lula, etc. C'est dans une période d'un gouvernement au Brésil qui est un gouvernement de gauche, etc. Donc, c'est quand même paradoxal que... À une époque où on était avec une organisation politique du Brésil complètement différente, finalement les pouvoirs locaux ont pu se manifester, et que dans la situation actuelle, justement, on ait une inversion, disons, de ce rapport. Donc ça pose question.
Je m'arrête deux minutes. Et là, il faut comprendre aussi, nous ne sommes pas très centralisés comme la France. Alors, nous sommes une fédération, et depuis la Constitution de 88, il y a eu une très forte décentralisation brésilienne avec un très fort pouvoir à l'échelle locale, à la mairie, qui quand même détient une compétence extrêmement importante. Alors là, il y a un aspect qui joue quand même un rôle très important, parce que les maires actuels, les gouverneurs de l'État de Rio et les maires de la ville de Rio de Janeiro, les deux, ils sont un parti qui était l'opposition de la dictature, c'est un parti qui sait tout rien, il n'a pas trop d'idéologie, il est toujours au pouvoir, il est toujours au pouvoir aussi avec le PT, d'ailleurs c'est l'une des alliances les plus importantes. Alors ce qu'on va voir à Rio, c'est qu'il y a quand même une coalition de forces qui n'a jamais eu dans le cas de Rio, parce que normalement les maires ne parlaient pas au gouverneur, qui n'avaient pas de lien avec le président. Et actuellement, il y a une certaine coalition, une paix, qui permet quand même des investissements assez importants, et d'ailleurs c'est l'un des aspects qui a permis les Jeux Olympiques par exemple. Mais là, les paradoxes, c'est que ce qu'on voit très clairement, c'est que la mairie, il a quand même une politique très claire tournée vers le logement, c'est une mairie de droite, centre-droite, par contre avec des investissements de l'État fédéral aussi. Alors là, je peux vous citer la question du logement, il est repris par la question du risque, par des interventions par exemple pour les Jeux Olympiques, mais on peut aussi ajouter une question, qu'on voit les retours de logement paradoxalement par des politiques de réhabilitation. Alors par exemple, le projet de la mairie actuelle qui touche pas mal d'argent du gouvernement fédéral pour la réhabilitation des favelas, les Morar Carioca, bon, c'est de nouveaux projets, ils visent la réhabilitation, mais pourtant, dans ces projets-là, ils sont en train de reloger une grande partie de la population pour les questions de risque, pour l'ouverture des rues. C'est extrêmement différent du projet ancien des années 90, qui disait très clairement que les projets d'intervention, il fallait toucher au maximum 5% de la population. Alors l'architecte, l'urbaniste devait penser l'intervention en touchant les minimums possibles de la population. Actuellement, il n'a pas ça. Et alors, du coup, on va voir par des modèles internationaux qui sont imposés aussi à Rio, Barcelone, c'est bien sûr, Buenos Aires avec les fronts de mer et le port, et aussi on voit beaucoup les interventions dans les favelas de Colombie qui apparemment sont devenues un exemple à Rio de Janeiro, notamment par la mise en place des téléphériques dans plusieurs villes, dans une logique d'une architecture monumentale. Et alors ces téléphériques-là, bon, l'impact, il y est relative, on pouvait quand même penser les transports d'autre façon, mais surtout parce que ce sont des interventions qui touchent et qui portent vraiment les besoins de reloger une grande partie de la population. Alors, c'est comme on voit d'une certaine façon qu'elles sont plutôt centrées sur une logique de patrimonialisation des favelas pour essayer de les insérer dans une logique de tourisme urbain, de tourisme dans les soi-disant des quartiers pauvres, mais qui ne touche pas nécessairement l'intérêt de la population. Alors, comment le relogement, il y a plusieurs facettes, à plusieurs phases, même par les biais de la réhabilitation, dans des projets qui, d'une certaine façon, ils posent quand même des investissements très intéressants dans les favelas. Alors, il faut être bien attentif, c'est complexe.
Très intéressant.
Et de toute façon, la droite et la gauche au Brésil, c'est quelque chose un peu relative.
Okay.